Ça va mieux, Jacques Lavergne, bonjour. Ça va mieux, l'émission où l'on commente l'actualité du monde. Pour commenter cette actualité, je suis aujourd'hui en compagnie, et ça ne vous étonnera pas, de Jean-François Mignard, de la Ligue des droits de l'homme, de Pierre Larouille, économiste, essayiste, écrivain. D'ailleurs, il nous dira peut-être un mot de son dernier livre qu'on attendait, mais je ne sais pas si la pénurie de papier, mais il n'est pas arrivé à temps.
Avec impatience,
bien évidemment. Et puis Léonore Socaras, qui devait être là, mais dont on ne sait pas où elle est. Peut-être fait-elle ses cadeaux de Noël, je ne sais pas. Alors, de quoi allons-nous parler ? Eh bien, on va parler de trois sujets principaux, les migrants, avec le trafic migratoire calaisien. On va parler des difficultés de Joe Biden et des menaces que tout cela fait courir sur la démocratie américaine, ou l'inverse d'ailleurs, je ne sais pas comment il faut le dire. Et puis, nous aborderons peut-être, si nous en avons le temps, mais j'espère que nous l'aurons, un troisième sujet que j'ai annoncé tout à l'heure. Alors là, je suis un peu perdu dans mes notes, pour vous dire, c'est ça, c'est l'informatique. Nous parlerons bien évidemment de la Guadeloupe, des îles, des Antilles, qui sont dans un grand état d'agitation. Alors, premier sujet, je vais vous faire une citation. Vous allez me dire de qui elle est, j'aime bien, on ne trouve jamais d'ailleurs, parce que je vais les chercher derrière les fagots. Un être qui s'habitue à tout, voilà, je pense, la meilleure définition qu'on puisse donner de l'homme. On commence par une colle, tout le monde le sait, j'adore ça.
Ça doit être une femme.
Bien non, pas un manque de chance, Jean-François Sedowski, dans le souvenir de la maison des morts. Alors commençons par notre premier sujet, donc ce problème éminemment, je ne sais même plus le qualifier d'ailleurs, éminemment problématique des migrants et de ce qui se passe à Calais. Alors vous savez que la situation de la ville de Calais des migrants est totalement catastrophique, ce qu'on appelle la jungle de Calais, c'est le nom le plus couramment utilisé pour désigner ces différents espaces qui sont habités, je crois que c'est depuis les années 90 à peu près, par ces migrants qui tentent de passer en Angleterre. L'appellation officielle, ça s'appelle la Lande là-bas. Alors la jungle de Calais, c'est aussi par extension l'ensemble de toutes ces installations précaires, bidonvilles, camps de migrants, tentes qui sont installées depuis les années 2000 à Calais, Sanguette, Coquel, je crois qu'il y a un village qui s'appelle comme ça, au bord de l'entrée française du tunnel sous la Manche et surtout de la zone portuaire de Calais. Alors démantelé à de nombreuses reprises, c'est même pas de nombreuses reprises, c'est perpétuellement par les forces de l'ordre, dans des conditions éminemment contestables. Ces camps de fortune voient leur population varier depuis 30 ans, parce que ça fait quand même 30 ans, à la suite de décisions politiques comme la fermeture du centre de Sangatte en 2002, et en fonction également du contexte international, comme les conflits régionaux, interrégionaux, les changements de politique migratoire européenne. On a eu du blind 2, on a eu du blind 3, ou encore la sécurisation des infrastructures de transport en Calais, à Calais, du terminal portuaire et du tunnel sous la Manche. La plupart des habitants sont des migrants qui tentent de pénétrer sur le territoire du Royaume-Uni, en passagers clandestins le plus souvent, ou dans des embarcations de fortune, dans des camions de marchandises empruntant les ferries, qui effectuent la livraison avec Douvres depuis le port de Calais, ou par les trains empruntant le tunnel sous la Manche, vous les connaissez. Parmi les migrants de la jungle se trouvent des réfugiés et des demandeurs d'asile, alors essentiellement en provenant d'Afghanistan, du Darfour, de Syrie, d'Irak et d'Érythrée. Il peut y avoir encore quelques autres, mais essentiellement la grande masse est composée par des ressortissants de ces pays. Une chose est sûre, tous ces migrants ne veulent absolument pas demeurer en France. Ça c'est clair, ils veulent rejoindre l'Angleterre, soit parce qu'ils ont déjà de la famille, soit parce qu'ils en maîtrisent la langue, ou qu'ils se sont fait une image de l'Angleterre à tort ou à raison. Le traité du Touquet entre la France et le Royaume-Uni, qui est entré en vigueur le 1er février 2004, donc à l'époque signé par M. Sarkozy, fait de la France la frontière anglaise. Alors un service rendu par notre pays moyennant finance, enfin lorsque le Royaume-Uni veut bien honorer ses engagements. On pourrait d'ailleurs leur dire que s'ils ne les honorent pas, on pourrait un peu se gendarmer. Je ne comprends pas d'ailleurs que l'État français ne fasse pas rentrer ce qui lui a été promis par le Royaume-Uni.
et ça nous... est certainement pris dans l'imbroglio de le post-Brexit, où les choses sont très très compliquées.
Oui, mais même avant, ils étaient... enfin, l'anglais n'est jamais bon payeur, hein, on le sait. Et puis nous assistons à un balai mortifère entre de très pauvres gens, complètement empaumés, une police française aux méthodes des plus contestables, des associations épuisées, des Calaisiens qui le sont tout autant, et la pègre inévitable des passeurs qui font... qui fait leur beurre sur cette extrême misère. Commence par Jean-François, pour
oui,
ouvrir le bal.
Oui, commencer, tant cette question-là est une question qui mobilise la mouvance associative dans laquelle j'ai l'habitude de me mouvoir. Voilà. Ce qui peut peut-être justifier encore plus d'en parler... puisque c'est quand même quelque chose qui dure et qui perdure, c'est quand même le fait qu'il y a quelques jours, la bagatelle de 27 personnes sont mortes.
C'était pas 31 ?
Alors, 27 personnes ont été retrouvées. Pour le moment, on est à la recherche des autres corps. On a retrouvé 27 corps.
Mmh. Hein, mais c'est pas le bilan définitif.
C'est pas le bilan définitif, tout à fait. De gens qui sont des Kurdes, d'ailleurs, hein, qui viennent d'Irak ou d'Iran.
Mais nous savons d'ailleurs tout ce que les Kurdes... nous ont apporté pendant certaines guerres et nous voyons aujourd'hui comment ils sont traités par les États-Unis, mais par l'Europe qui ne fait
entendu,
pas...
Bien entendu, les Kurdes sont toujours, j'ai envie de dire, les cocus de l'histoire, si ce n'était pas aussi dramatique. Donc 27 corps ont été retrouvés, deux gens qui sont partis sur un little boat, que ça s'appelle, hein, alors on dit des Zodiacs, en fait, c'est des petits navires gonflables de fabrication chinoise, à la stabilité extrêmement précaire, propulsée par des moteurs qui sont des moteurs sous-puissants. Hein, voilà. Et ces gens-là, alors bon, alors ça a mobilisé, mais vous savez, c'est l'écume de l'actualité. Rappelez-vous le petit gamin sur la plage grecque. Hein, ça a mobilisé les gens, et puis ainsi fait. On passe à autre chose, à une Miss France quelconque. Ou à une élection, voilà.
D'où Jean-François Dostoïevski, un être qui s'habitue à tout, voilà. Voilà. Je pense la meilleure définition qu'on puisse donner de l'homme.
C'est assez désespérant, mais Dostoïevski n'était pas un gros farceur au demeurant. Voilà, ça a marqué un pas de plus dans l'horreur. Hein. Alors, la particularité que ça a montré, c'est d'une part la duplicité et le cynisme, à la fois de la France et de l'Angleterre, pour le coup, puisque ces gens-là se sont noyés à la limite des eaux territoriales, hein, de l'une et de l'autre des nations, avec les gens qui se les renvoyaient comme de malheureuses balles de ping-pong, et en disant, en gros, les Anglais disant « débrouillez-vous avec les Français », et les Français disant « débrouillez-vous avec les Anglais », bref, ils sont morts. Alors, la France, dans cette affaire-là, au passage, quand même, il faut le signaler, les accords de Touquet renvoient la France un rôle que les pays européens ont tendance à faire jouer aux autres pays qui sont limitrophes à la Méditerranée, c'est-à-dire c'est un fameux pays tiers. Et nous, on fait ça aussi.
Oui, on l'a vu en Grèce, on l'a vu en Italie, en Sicile notamment.
Exactement, autrement dit, comme on ne veut personne chez nous, parce qu'on a une trouille bleue d'une illusoire invasion, un grand remplacement. Hein. Quand on regarde les chiffres, on se dit que c'est même plus la peine de les donner. On est dans l'idéologie la plus complète et dans le fantasme le plus dément. Hein. Je ne les donnerai même pas ici parce que je pense qu'ils ne sont pas convaincants, parce que c'est d'autres choses ce dont il s'agit. Ce à quoi je voulais en venir aussi, c'est pas une... Je pense que ce qui se passe autour de la question des migrations est un marqueur idéologique aujourd'hui fort. C'est pas... D'ailleurs... C'est ce qui fait, entre autres, le cheval de bataille de l'extrême droite. Hein, aujourd'hui, en gros, qu'est-ce que vous avez dans un discours qui est un discours zémourien ? Vous avez la haine et la trouille. Ouais, et de l'étranger via le grand remplacement ou des choses comme ça.
Voilà, question que je pose d'ores et déjà à Pierre Larouille qui prendra la parole après vous. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que sur la base de ce qui est un fantasme total, parce que vous avez dit, les chiffres ne reflètent absolument pas, non, ni un envahissement, ni une marée humaine, ni rien du tout. Comment peut-on, mais il nous répondra tout à l'heure, comment peut-on bâtir une théorie ou des théories politiques sur quelque chose qui n'existe pas ? Mais Pierre va nous donner son avis tout à l'heure, je sais que là-dessus...
C'est tout l'art du communicant, ça.
Voilà,
c'est un marqueur idéologique, parce que ça nous renvoie, me semble-t-il, La manière dont on peut se positionner concernant cette question nous renvoie à des fondamentaux, des valeurs, hein, autrement dit. Et on voit bien que si on n'affronte pas cette question-là avec nos propres valeurs, ça nous amène à faire des choses qui sont des choses absolument insupportables. Ça amène le ministre de l'Intérieur à mentir régulièrement de manière cynique en expliquant que la police ne la serre pas du tout les tentes de ces gens-là.
Alors qu'on a appris, on a des photos,
c'est
on
documenté.
A des évidences.
Enfin, moi j'en ai vu, je fais partie d'une association qui documente ces choses-là. Le ministre de l'Intérieur ment. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, ment. Le président de la République ment. Les gens meurent. Et une grande partie de nos concitoyens regardent ailleurs ou se regardent le bout des godasses, hein, parce qu'ils sont l'objet, encore une fois, de fantasmes. C'est un marqueur très fort, y compris par rapport à ce qui se passe maintenant. C'est un marqueur très fort par rapport à ce qui s'est passé dans l'histoire. Voilà. Et c'est du délire. Et c'est du délire que d'imaginer que nous pourrons, nous, France... continent Europe, endiguer, bloquer des gens qui sont à nos frontières et dont la misère qui les pousse dehors ou les guerres, nous en sommes en partie des acteurs. Je ne dis pas des responsables, mais au moins des acteurs. Et on touche là aux valeurs qui sont les valeurs de fond, de solidarité. Et je peux y compris témoigner que moi, je fais partie des gens qui, modestement, nous engageons dans des logiques qui sont des logiques de solidarité. J'ai envie de dire aux gens qui ont la trouille, vous devriez essayer, vous verrez, c'est vachement bien. L'accueil, c'est vachement bien. La solidarité, c'est quelque chose qui amène énormément de choses. Et alors, ça va faire un peu, comment dire... emphatique, le partage, c'est pas que de la douleur et c'est pas que du manque. Voilà. Là, on est. Et cette question-là, encore une fois, je ne suis pas un fan ni de Dostoïevski, ni de Winston Churchill, mais vous rappelez la phrase de Winston Churchill en disant les gens concernant la guerre, les gens ont eu peur de la guerre, ils ont choisi entre les deux honneurs et la guerre, entre la guerre et les honneurs, ils ont choisi les honneurs, et ils auront les deux, ils auront. Et là, nous, c'est un peu ce qui est en train de se passer. Nous, pour le moment, choisissons, quand je dis nous, c'est y compris parce que nos dirigeants qui dirigent en notre nom choisissent quelque chose, alors. Je ne vais pas dire le déshonneur, mais encore que, il y aurait si, voilà, mais au prétexte que ça nous éviterait ce problème-là, ça ne nous l'évitera pas, d'autant que nous-mêmes ne sommes pas complètement exempts de ce genre de choses-là. Nous sommes un pays d'émigration, y compris, nous sommes un pays historiquement d'immigration, nous sommes constitués de ça. Arrêtons avec le roman national et l'identité française. Et nous sommes un gros pays qui est un pays d'émigration. Par exemple, nos jeunes cerveaux s'en vont. Voilà, comme les pays qui sont les pays du tiers-monde, ils vont aux États-Unis, ils vont dans des trucs comme ça. Nous sommes nous-mêmes pris dans un flux qui est un flux international qui fait que les biens fonctionnent, les richesses fonctionnent. Et il n'y a que les gens qu'on veut bloquer.
Alors, on va avoir aussi un autre problème qui est celui de la natalité quand ça va s'inverser dans les quelques années qui arrivent. C'est-à-dire
oui, mais les Allemands ont déjà compris.
Les Allemands ont déjà compris. Madame Merkel, quand elle a fait rentrer 1 million d'émigrés, n'avait pas certainement qu'un souci d'empathie vis-à-vis de ces gens, mais aussi un souci pratico-pratique. On lui a beaucoup reproché. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui que ces accords du Touquet continuent à demeurer en vigueur? Après le Brexit, pourquoi sommes-nous des supplétifs des Anglais ?
Parce que nous sommes déjà fait. Je pense que Pierre pourra en parler, mais je pense que nous sommes pris vis-à-vis des Anglais dans une espèce de jeu très compliqué suite au Brexit, à la fois de différence de concurrence et de similitude. En Angleterre, dans les jours qui viennent, vont être votés, va passer à la Chambre des Lords demain, je crois, un projet de loi qui est un projet de loi qui s'appelle Nationalité et Frontières. Bojo a pondu quelque chose comme ça avec une ministre de l'Intérieur particulièrement musclée, qui est pas si indifférent ou si différent de ce que nous, on a pu produire à d'autres moments donnés et qu'on continue à produire en termes de politique, cyniquement, comme pour appeler, de l'accueil. Nous n'avons pas un problème d'immigration, moi je le répète régulièrement, nous avons un problème d'accueil. Et les Anglais, de ce point de vue-là, sont à la fois différents de nous et très proches, et en même temps en concurrence et en conflit, parce que y a qu'à voir. Hein. J'imagine, hélas, mais peut-être que je suis malveillant, que les immigrants sont aussi une monnaie d'échange qui permet de jouer sur la question de la pêche, par exemple, hein, ou des choses de ce style-là. C'est la réelle politique. Hein, voilà, on fait pas des politiques avec des bons sentiments, de même que la révolution n'est pas un dîner de gala, disait le président Mao.
Alors, Pierre Larouille, là, est-ce que la politique consiste à inventer des problèmes qui n'existent pas pour capter finalement les votes ? Est-ce que non, on est dans le mensonge permanent aujourd'hui à la méthode de Trump ?
Oui, en tout cas, ça peut arriver. Si on commence par Calais, moi, ce qui me vient, c'est ça, laid, oui. L'idée, oui, c'est très laid. C'est très laid. Et de ce point de vue, la langue parle et assez spontanément.
C'est lacanien, ça, non ? Il nous fait du Lacan, hein.
Je fous Lacan. Oui.
On vient de le voir, et Jean-François, en dehors de son aspect humain et en plus d'association qui est très présente sur ces sujets, en fait, qu'est-ce qu'on a raconté ? On n'a strictement rien à raconter. Une fois qu'on a dit, mais sur le plan humain, nanana, une fois qu'on a dit, ah oui, mais les accords du Touquet, une fois qu'on a dit, oui, mais il y a le Brexit. Une fois qu'on a dit, il y a le cynisme anglais. Une fois qu'on a dit, oui, mais à Schengen. En fait, on n'a rien dit du tout. Alors, je ne sais pas si c'est un non-problème, un problème, un outil de négociation politique, un éclairage. Enfin bref, on se trouve dans ce style de sujet, Calais, dans typiquement ce qui se passe dans beaucoup de sujets aujourd'hui.
Où on cale.
Où on cale. Et de manière très laide, et dont on voit la démonstration à longueur de journée dans la campagne électorale qui commence à se dérouler. Parce qu'en fait, nous sommes quand même dans une société où les citoyens sont pris dans des injonctions contradictoires d'une société complexe dont ils n'arrivent pas à se sortir et dont ils sont en même temps des victimes et des coupables. C'est-à-dire que nous produisons effectivement des choses que nous ne traitons pas. Et on va aux propositions les plus simples, les propositions populistes. Je crois que Jean-François évoquait effectivement, est-ce qu'il y a un problème d'immigration ? Peu importe, puisque de toute façon, quand on le prononce, tout le monde logiquement dit « oui, mais bien sûr ». Oui, mais bien sûr. Et en fait, on rentre comme ça dans une sorte de caisse de résonance, et pendant un mois, on parle de Calais, ou on parle de Lampedusa, ou on parle de Lesbos.
De la Grèce,
et puis, ben, pendant 3-4 mois, on passe à autre chose. Et en réalité, on ne traite toujours pas, parce qu'en réalité, nous n'avons aucune structure de penser devant quelque chose.
Et ça, c'est pas un peu l'époque Macron, parce que M. Macron, en dehors du fait d'être l'aventurier qui est arrivé là sans conviction, sans histoire, sans nous raconter un peu où il voulait aller, sans nous faire un récit de ce que pourrait être sa politique. C'est ça, c'est un surfeur, Macron. Est-ce que toute la France n'est pas en train de surfer, passer d'une vague à l'autre, autrement dit d'un problème à l'autre, sans pour autant le traiter ?
Je veux bien qu'on raconte des choses sur Macron, et notamment celle-là. Je crois quand même que ce n'est pas totalement spécifique à la France, ni à Macron. Il y a quand même un phénomène structurel qui est quelque chose qui affronte la démocratie. C'est que nous n'avons plus la structure de langue qui permette à la démocratie de dire quelque chose sur les sujets complexes. Nous sommes dans une société où s'est installée une défiance, où la simplicité des collages d'idées se substitue aux structures qui faisaient avant la langue.
Normalement, est-ce que c'est un problème de langue ou c'est un problème de gens qui n'ont plus la capacité, soit parce qu'ils n'ont pas eu la formation, soit parce qu'ils n'ont pas assez de neurones pour réfléchir et qui ne peuvent pas embrasser la situation, sa complexité et essayer d'avoir un raisonnement logique sur elle.
Je le crois pas, il ne veut pas penser comme ça, en tout cas. Il me semble, oui, c'est un problème de langue, au sens où quand la langue est totalement absente d'une nomination du problème qu'on traite, eh bien, on se résout à avoir une non-langue ou une nov-langue, comme on voudra, et qui est celle que vous entendez, y compris avec des accents, comme l'a fait Zemmour samedi ou dimanche, je ne sais pas, parce que je ne suis pas un fan, où on a l'impression en plus que c'est un discours culturel. Nous sommes au cœur, en fait, là on prend celui de... Vous avez vu que vous-même, dans la discussion il y a quelques secondes, on a commencé sur Calais, mais on finit en réalité sur la démographie et sur l'immigration. C'est-à-dire sur quelque chose
c'est lié.
Qui pèse. Mais oui, bien sûr, c'est lié. Mais c'est lié aussi sur le fait que comment on pense l'universalisme aujourd'hui, dès qu'on prononce ce mot, on est ridicule, on est has-been. On parle de mondialisme, peut-être, mais pas d'universalisme. Et d'ailleurs, on entend quand même, y compris à gauche, avec les woke et tout ça, qui finalement, d'ailleurs, si on est universaliste, ben en fait, on est vraiment des salauds. Mais pourquoi vous voulez imposer ces choses soi-disant humanistes à tout le monde? Mais non, prenez en compte leurs spécificités, vous imposez des choses qui ne sont pas bonnes. Bref, on n'a pas de discours qui tient, il n'y a plus de colonne vertébrale. Et qui plus est, tout le monde joue, soit les populistes, soit les woke, à de toute façon déstructurer, déconstruire, comme dirait Madame Rousseau. Je ne sais pas si elle a lu Derrida avant. Donc je crois que les citoyens, ils sont largués, parce qu'en fait, ils sont pris entre des choses, vous le voyez bien qu'ils sont pris entre des choses contradictoires. Voyez bien qu'ils sont gênés par... Vous écoutez les gens qui écoutent Zemmour, une fois qu'on a quitté le monde un peu politique... Les gens vous disent, ouais, franchement, il exagère. Mais en même temps, oui, là, il y a du en même temps. C'est-à-dire que ça leur va bien, ce qu'ils racontent aussi. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont aller au bout et de voter pour Zemmour, pour d'autres raisons, sans doute. Mais c'est un discours qui passe. On peut tout dire.
Mais il passe parce que les récepteurs, autrement dit, vous et moi et les autres, est-ce qu'ils ont l'appareil cognitif suffisant et est-ce qu'ils ont aussi la volonté de creuser un peu les questions, de s'y intéresser, d'apporter peut-être une autre façon de voir?
Et nous disons la même chose, mais de l'autre endroit, on peut penser que nous sommes déficients aujourd'hui. Je préfère penser que nous n'avons plus les appareils pour le penser et que
oui,
tous les appareils...
Ce qui revient au même. Vous n'avez pas l'appareil cognitif qui vous permet de vous positionner dans le monde actuel,
c'est les démarches intellectuelles, y compris. Enfin, moi, de ce que j'entends, je m'excuse de m'immiscer la moindre conversation, je ne suis pas sûr que les capacités cognitives aient baissé comme c'est énoncé chez les psychocognitivistes, d'ailleurs, dont il y aurait quand même pas mal de choses à dire, mais il est peut-être aujourd'hui beaucoup plus difficile d'avoir une démarche pour constituer un raisonnement fondé et documenté que ça a pu être, par exemple, à notre époque. Je veux dire, les gens qui sont... Il n'y a qu'à voir. Enfin, moi, je suis très modestement... je vis l'expérience des fois... Quand je me mets à réfléchir, pas dans l'absolu comme ça, mais parce que j'ai des choses à faire qui demandent qu'on réfléchisse avant, la prise en compte du savoir disponible, du regard critique qu'on peut porter sur ce savoir disponible-là, et la déconstruction, pour le coup, parce que moi, ça ne me dérange pas trop. La déconstruction peut très bien aller, de mon point de vue, avec un universalisme qui ne se réfugie pas que dans l'abstrait.
La première déconstruction.
Voilà. Oui, c'est la première déconstruction, l'universalisme, pour autant qu'il s'attache à du concret, à du réel. Quoi. Voilà. À ce moment-là, ça devient un universalisme qui m'intéresse. Il me semble qu'au XXIe siècle, c'est beaucoup plus difficile de penser qu'au XXe siècle. De penser réellement. De construire
une pensée. Est-ce que c'est difficile de penser ou est-ce
oui,
que
et, de prendre, et de construire une opposition.
Est-ce que l'éducation que l'on nous donne, donc l'éducation nationale, n'a pas failli et ne nous permet plus d'avoir les outils de réflexion et la culture nécessaires à analyser le monde tel qu'il est aujourd'hui?
Ça devrait faire, on le dit ça à chaque fois, l'objet d'une émission. Je ne suis pas sûr. Moi, je suis enseignant, avec des petits-enfants d'ailleurs, donc c'est là où on apprend ce genre de trucs-là. Et je ne suis pas nostalgique de l'époque de l'école que j'ai vécue. Je ne suis pas non plus, je ne fais pas un rejet. Mais je ne suis pas sûr que, d'une part, que j'ai appris à penser que là. J'ai beaucoup appris à penser ailleurs et je pense que les enfants apprenaient à penser aussi ailleurs.
Parce qu'à l'époque, cet ailleurs n'était pas un ailleurs pollué, capté par les écrans où on vous sert de la daube à longueur
oui,
de journée.
Oui, et puis c'était un ailleurs qui était un ailleurs relativement simple. C'était pas un ailleurs qui était un ailleurs complexe. Le papa, la maman, la famille stable, les valeurs de la communauté, du village, du quartier, ou de l'appartenance politique et syndicale de la famille, ça assoit, ça stabilise et ça permet de penser. Parce que pour penser, il faut être un peu confiant, il ne faut pas être dans le flux de la complexité. Voilà. Et je pense là aussi, pour avoir été instituteur, le beau mot d'instituteur, de celui qui institue justement, c'était infiniment plus facile quand j'ai commencé à la sortie du grand séminaire laïque qui était l'école normale et instituteur, de remplir cette fonction-là, qu'aujourd'hui où on n'est plus instituteur, on est professeur des écoles et où, d'une certaine façon, on a changé de registre. Voilà. Alors, est-ce que l'éducation nationale... Peut-être que l'éducation nationale a failli. Je pense que ce sur quoi elle a failli, c'est par rapport aux moyens qu'elle se donne ou qui lui ont été donnés pour continuer à faire son travail. Mais encore une fois, rappelons-nous que les gens qui pensaient bien étaient quand même, par ailleurs, peu nombreux à notre époque. Ils étaient peu nombreux, hein, parce que c'était ceux qui arrivaient jusqu'au bout, effectivement, de la démarche. Et que ce sont les mêmes, d'ailleurs, qui ont produit les effets dans lesquels nous sommes, ce qui est quand même une énigme. Hein. C'est-à-dire que les gens qui ont produit ça sont les gens qui sont le produit de l'institution, qui sont... Vous savez qu'on est... On va faire la journée citation. Hein, c'est Einstein qui disait « C'est pas les gens qui ont créé les problèmes qu'on arrive à trouver les solutions. Hein. » Voilà. L'école traditionnelle a donné ce que nous sommes. Hein. Nous sommes des enfants d'une école ou d'une pédagogie traditionnelle, autour de la table ici. Voilà. Je veux dire, et c'est pas d'autres personnes que les gens qui sont sortis de cette institution-là qui ont été aux manettes. Il y a donc quelque chose d'un peu plus complexe.
Quoi. Il y a, Pierre Larue, en dehors des problèmes d'accélération et tout ça, là on parle du sujet difficile de l'immigration, surtout aujourd'hui. Mais parlons d'un sujet qui n'est pas du tout d'actualité, qui est le Covid. Vous avez exactement le même sujet.
C'est vrai.
Parce que finalement, qui peut ouvrir sa gueule en disant « mais je comprends pas, au nom de l'intérêt général, vous allez vous vacciner ?» Les autres disent « mais je me permets. Ah mais on va pas vacciner les enfants, parce que tout le monde, enfin personne ne peut trouver un référent quelconque. En réalité, si les gens sont vaccinés un petit peu plus en France, c'est parce qu'on leur a imposé. Sinon, on serait dans le même sujet, et d'ailleurs on continue. Et je ne suis pas en train de prendre là parti pour l'autre, c'est pas la question, c'est que nous n'avons pas, encore une fois, d'appareil idéologique qui fasse que la démocratie soit capable aujourd'hui de traiter le problème de l'intérêt général avec le respect des spécificités individuelles.
C'est vrai, on n'est pas comme Val, s'expliquer, c'est pas justifié.
ça fait longtemps que je mignard, c'était pas...
Donc,
moi, ce qui me remonte, en plus, puisque Jacques Lavergne m'a tendu la perche, c'est un fil conducteur dans mon roman qui sort.
Ah, ben c'est que
malgré tout, aujourd'hui... Quand on écoute les propos de la droite, il n'y a plus que la droite qui parle actuellement, donc c'est normal, on a quand même le règlement de compte avec 68. Parce qu'en fait, politiquement, on est en train de dire que tout ça, c'est 68.
C'est la pensée 68.
Voilà.
Ce qui n'est pas peut-être totalement faux.
Mais c'est un fil conducteur. Je dis effectivement dans mon roman qu'on a fait l'enfant roi, mais qu'on a dilapidé le royaume.
Bolloré, je ne suis pas sûr que M. Bolloré ait été sur les barricades et largement influé.
Il n'a pas été grand-chose, si ce n'est un lait très particulier. Pierre Larue, vous avez parlé de votre roman, le titre. On va dire le titre, on le rappellera tout à l'heure. Mais
et un jour, il monta les marches jusqu'à demain. C'est un titre assez long.
Il y a eu un moment de silence. Hein.
Je ne sais pas, je me demandais quand est-ce qu'il allait s'arrêter le titre.
Demain.
Bon, on en reparlera tout à l'heure. Écoutez, là, je pense qu'on a à peu près dit ce qu'on pouvait dire sur ce phénomène. Bien sûr, on pourrait en parler pendant des heures.
Oui, juste dire que c'est... Moi, je veux juste rajouter quelque chose. Ça va continuer. Ça sera certainement pire. Ce sera extrêmement déshonorant. Et tant qu'on n'aura pas affronté individuellement et collectivement cette question-là, qui est une question d'avenir, enfin, je veux dire, nous-mêmes, qui nous dit que nous ne serons pas nous-mêmes des réfugiés qui sont des réfugiés climatiques, hein, pour certaines dans notre pays.
Ah, ben, il va falloir s'habituer à ce genre de notion, parce que d'ici 30 ou 40 ans, on sait que certaines terres vont être brûlées invivables, et donc ces gens vont continuer à vivre, bien évidemment, ils vont monter vers le nord.
D'autant que c'est vieux comme l'humanité. Enfin, c'est là où nous sommes confrontés à un truc qui est absolument hallucinant, les migrations, le fait que les gens circulent par petite quantité, par grande quantité, l'humanité c'est structuré comme ça.
Le monde s'est structuré comme ça. Et d'ailleurs, on a cité ici certains livres de généticiens qui démontrent parfaitement ce type de mécanisme qui est consubstantiel à la nature humaine.
Oui.
Bon, je vous propose, parce qu'on ne va pas épuiser ce sujet, on y reviendra moult fois, Gaston. On est quand même, on a l'impression d'être un peu désarmé devant ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est Jean-François qui utilisait le terme de déshonneur. C'est vrai que ces temps-ci, on a quand même un peu l'impression d'être déshonoré par nos politiques. Surtout quand un certain va serrer la main de l'autre côté, outre-méditerranée, d'un prince saoudien... qui est lui-même un peu... qui a prêté la main à quelque assassinat. Bon, enfin, passons. Sujet 2, les Antilles. Alors, les Antilles, elles se sont embrasées, singulièrement la Guadeloupe, puis après, ça a contaminé, mais dans une moindre proportion, la Martinique. Le refus de la vaccination a été le déclencheur de la révolte, mais certainement pas la cause unique. Il y a eu des violences sérieuses. On a incendié des voitures, on a pillé des commerces, on a fait des barrages autoroutiers, on a incendié, on a tiré à balles réelles sur les véhicules des gendarmes, pillé des banques, des magasins alimentaires, même des armureries. Donc c'est pour ça qu'on peut aujourd'hui tirer à balles réelles sur les gendarmes. Le gouvernement, il a une réponse assez curieuse, il a envoyé des forces de police supplémentaires, bon, on peut comprendre, quelques gardes mobiles, 200 je crois, mais plus surprenant, accompagnés par 50 membres du GIGN et du RAID, unité spécialisée dans des interventions très particulières, dont on se demande bien ce qu'elles pouvaient apporter à la situation. C'est une curieuse idée qui, à elle seule, peut-être en dit long sur l'approche du président de la République sur cette situation locale un peu brouillonne. Alors, la situation économique et sociale des Antilles explique certainement ces mouvements, bien plus que les mesures concernant la crise sanitaire. On sait que dans ces îles, inégalité sociale renforcée par la crise sanitaire, on sait qu'il y a le chômage des jeunes, un pouvoir d'achat et des disparités du niveau de vie. Et puis, il faut penser aussi que les réticences des Antilles à se faire vacciner proviennent vraisemblablement, et même sûrement d'ailleurs, de ce fameux chlordécone dont on commence à parler un peu maintenant, ce pesticide largement utilisé dans les champs de bananes entre 72 et 93, c'est quand même pas nouveau, et dont la très grande toxicité a été très longtemps niée par les gouvernements, ce qui est considéré aux Antilles comme un mensonge d'État. Et d'ailleurs, il n'y a pas qu'aux Antilles, si on veut bien avoir une approche un peu raisonnée de la situation, on ne peut que les rejoindre. Un mensonge d'État qui a été réalisé au profit de quelques grandes familles de l'île, un mensonge qui a provoqué des dérèglements physiques gravissimes chez la quasi-totalité de la population, et ça se poursuit encore aujourd'hui. Un vrai scandale totalement et volontairement ignoré par l'État. Le ministre des Outre-mer, qui est certainement plus préoccupé par la future élection de son patron, n'a pas manifesté beaucoup d'empressement à se rendre sur place. Il a lancé en outre une fumeuse idée d'indépendance que personne... D'autonomie, oui, que personne ne revendiquait, personne n'en parlait, ça n'intéresse pas la population locale. Peut-être les politiques locaux, mais pas la population en tout cas. Quant au président de la République, eh bien, comme je le disais, il ne s'est pas rendu sur place, il préfère manifestement la fréquentation de certains potentats arabes aux mains pleines de sang. Tant pis pour ses concitoyens sur cette question, Pierre Larouille.
Je vais filer ce que je faisais, je sais que vous aimez beaucoup ça, la langue parle. Vous vous souvenez, c'est en 2009, je crois, quand est apparu ce terrible slogan de la profitation.
La profitation.
C'est absolument génial. C'est absolument génial. Ce mot qui n'existe pas et qui raconte tout. C'est extraordinaire, cette capacité de la langue à saisir un truc qui se passait. Et j'avais commis à cette époque-là un article dans Mediapart qui était encore fréquentable.
Qui s'appelait... Ça dépend par qui.
Ne débattons pas là-dessus.
Qui s'appelait De Pointe-à-Pitre à Paris, c'est quoi un prix ? En fait, on reste un peu dans ce sujet de ces outre-mer qui sont dans une incompréhension assez générale depuis longtemps. Alors, Il ne faut pas se contenter.
Les confettis de l'Empire, c'est dur.
Ah oui. Non, mais c'est dur, mais c'est quand même assez extraordinaire. Comment on veut regarder les Outre-mer ? On a quand même... les Outre-mer, c'est trois, en réalité quatre. Quatre océans, c'est la deuxième surface maritime au monde. C'est donc potentiellement une richesse colossale.
Mmh, tout à fait.
De temps en temps, Michel Rocard arrive, Mélenchon, ces derniers temps, mais pousse pas beaucoup les feux, il y aurait, pour le coup, une véritable stratégie de développement d'emploi, de recherche, qui pourrait réunir les Outre-mer dans un grand projet qui changerait leur statut. On viendrait par exemple sur le problème du tourisme. Mais regardez, je vous donner un exemple. Je ne sais pas s'il est connu, mais vous savez, il y a un câble sous-marin qui permet à chacun de faire de l'Internet. Nous avons réussi, nous, à ne pas avoir les mêmes fournisseurs pour les câbles sous-marins en Polynésie ou aux Antilles, par exemple. Je continue à chercher l'explication. Je veux dire que quand j'ai fouillé, à l'époque où je fréquentais un tout petit peu le gouvernement de Polynésie, je me souviens de m'expliquer le trajet, finalement, il faut faire des nœuds, vous savez. Les nœuds, c'est pour que ça soit pratique. C'est les endroits où on écoute tout. Oui aussi, mais en réalité, c'est un outil de défense. C'est un
à même temps, quoi.
Voilà, c'est un très beau sujet, les câbles sous-marins. Non, je reviens de manière plus sérieuse. Voilà. Ça, c'est un enjeu qui pourrait raconter une histoire de l'outre-mer. Parce que sinon, on a le problème de la continuité territoriale, qui est évidemment juste. Mais la continuité territoriale, quand on parle de tourisme ou qu'on parle des prix... Et ça vaudrait le coup de le détailler un tout petit peu, parce qu'on voit bien que la continuité territoriale, quand on spécialise trop des îles dans le tourisme, elles ne sont pas forcément très à l'aise. Je ne suis pas sûr que la Réunion soit très privilégiée par rapport à l'île Maurice, sur le plan du tourisme. Donc c'est compliqué. On spécialise l'île, on arrive à faire des îlots bâtis sur des économies qui sont quand même des économies de sous-développement plus que l'inverse.
Ce sont les confettis de l'Empire.
Voilà. Et donc, quand je vois le contraste entre, encore une fois, le potentiel de la puissance maritime et de la recherche qu'on peut y faire, et cette perpétuation de ne pas avoir d'objectif plus large que le tourisme ou un peu d'agriculture... Alors, on peut en rajouter une troisième donne. Alors, effectivement, le ministre a parlé de l'autonomie quand personne ne s'y attendait. Mais je vous rappelle quand même qu'il y a un référendum dans quelques jours.
En
Nouvelle-Calédonie, oui. C'est pas anecdotique.
Bien sûr.
Quand, au moment où tous les enjeux stratégiques du monde se déplacent dans ces endroits-là, où la Chine, vous avez vu, les Américains, tout le monde se positionne. Nous avons des lieux stratégiques. Je ne sais pas si vous savez qu'en Polynésie, par exemple, il y a un atoll qui est loué par la NASA, parce que c'est le dernier point où ils peuvent encore véhiculer de l'information en mettant des choses fixes. Nous avons des places stratégiques en dehors de la mer. On s'occupe vraiment de la Calédonie ? On pourrait revenir, ce qui s'est passé sur le cuivre, etc. Donc, il y a effectivement un problème économique et social, mais il y a surtout un impensé incroyable que nous avons par rapport aux Outre-mer. Alors que je crois qu'il y a une grande ambition possible. Alors, si on rajoute à ça que derrière ces inégalités, il y a des problèmes culturels, évidemment. Alors, je pense que Jean-François parlera de la créolisation et tout ça, qui sont des phénomènes majeurs, mais ça prend une autre ampleur quand on est en Polynésie. Ce n'est pas les mêmes choses, mais ça revient au même. Donc, en fait, ces lieux sont des lieux formidables que nous n'arrivons pas à appréhender. Il me semble qu'ils ont été abandonné dans la réflexion stratégique française depuis très très longtemps.
Ah oui, c'est ce que je voulais vous entendre dire depuis très très longtemps, parce que personne ne s'en préoccupe véritablement. Personne. Comment l'expliquer ? Jean-François Millard.
Peut-être qu'un des éléments d'explication aussi, c'est que nous sommes une vieille tradition, nous sommes un vieux pays de tradition républicaine centralisée qui a beaucoup de mal à faire avec des jeunes qui sont des jeunes différents. Voilà, c'est aussi ça, c'est-à-dire que...
Plus si différents que ça aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de fonctionnaires...
Mais quand je parle des jeunes différents, je ne parle pas que des jeunes des Antilles, je parle des jeunes différents dans ce vieux pays qui est un pays centralisé, c'est d'une république qui est soi-disant une, indivisible, c'est très compliqué.
Mais qui est très divisée.
qui objectivement l'est, parce que de toute manière, c'est comme ça que ça se passe. Et pour imaginer un développement des territoires, parce que c'est la question du développement des territoires qui est posée à travers ce qu'évoque Pierre. Alors, économique pour le coup, mais culturel. Alors, c'est vrai qu'on pourrait parler le fait que, par exemple, ces territoires constituent des avant-gardes. Quand on parle de la créolisation, c'est pas qu'une approche qui est une approche culturelle. C'est y compris une certaine manière de penser.
Alors, définition de la créolisation dont on entend beaucoup parler.
C'est le fait que les identités sont des identités, les cultures sont des cultures et sont des cultures de mélange qui se construisent. Et qui ne sont pas, c'est une approche qui est non fixiste et du culturel et de l'identitaire. C'est-à-dire que on mélange les origines qui sont les origines culturelles et on construit ce faisant au jour le jour l'avenir. On est dans le fait. Alors c'est une certaine manière de penser la biodiversité culturelle.
Ça s'est toujours passé comme ça partout.
Mais bien
tout
sûr.
Le temps.
Oui, oui.
Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans pour qu'on s'excite là-dessus aujourd'hui?
C'est parce que peut-être plus qu'avant aujourd'hui, quand on regarde autour, c'est par là que les choses passent. C'est par le fait que c'est par l'ouverture et c'est par le mélange, bien sûr que ça s'est fait comme ça. Mais là, il y a un niveau d'accélération anthropologique, à la limite, qui fait que ce qui est difficile à penser pour nous, c'est la fameuse histoire de égo et différent. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a acheté l'égalité contre l'uniformité dans notre modèle à nous. Tu seras traité comme les autres, tu seras reconnu, tu seras légitime dans la mesure où tu me ressembles. Tu peux garder chez toi, dans ton espace privé, quelque chose de l'ordre de la... Mais tout le monde doit parler pareil, tout le monde doit s'habiller pareil, tout le monde doit se comporter quand même relativement pareil. La créolisation, justement. Et ça, on est quand même héritier de cette manière de penser les choses, qui fait que quand il s'agit de penser effectivement depuis le territoire, depuis l'endroit où sont les gens, on a beaucoup de mal avec ça.
Si je peux rajouter un mot, je suis tout à fait d'accord. Et il y a cet aspect culturel, effectivement. Mais en fait, c'est un problème plus large, qui est effectivement ce problème de la République une, qui est toujours pensé comme excluant la capacité d'avoir des spécificités, de les prendre en compte. Et ça, c'est pas seulement en Outre-mer. Qu'est-ce que vous voyez apparaître avec les trucs très à la mode, comme si on n'avait pas vu avant, mais bon, il a fait un très beau livre, le livre de Fourquet sur l'archipel français, ou les Gilets jaunes. Ça montre quoi aussi? Ça montre que je crois que la société est devenue assez complexe pour qu'on ne puisse pas continuer à avoir un diktat normatif qui fait que tout le monde doit être au même taux de croissance, de la même manière, etc. etc. Nous n'avons pas trouvé un modèle, et je veux dire, c'est sûrement pas l'état central d'aujourd'hui, ou les maisons comme l'ENA qui vont aider effectivement à avoir cette vision qui est qu'on peut peut-être être peut-être moins égaux mais plus juste, et on peut peut-être rendre les gens plus heureux en tenant compte de leurs spécificités en ayant un modèle qui ne marche peut-être pas au pas.
Et il veut dire qu'il faut donner plus de pouvoir au territoire, décentraliser. Alors, beaucoup plus qu'on ne l'a fait,
sans nul doute, mais Mignard, un brillant universitaire, le sait, les modèles de croissance avec sous-économie existent, ils ne sont même pas enseignés. Mais les modèles de Morgenstern dans les années 60 racontaient très bien des modèles de croissance avec sous-économie et qui étaient au niveau global aussi rentables qu'une économie complètement normative avec un seul taux de croissance et un seul système de production.
Oui, ou une répartition à la Ricardo, des spécialités, oui, en fonction des territoires. On parlait tout à l'heure, le tourisme à tel endroit. Chacun a sa spécialité et tout le monde est content, comme une espèce de corps qui a des membres et qui viennent s'organiser. Quoi.
Je pense que ça, c'est un sujet central, parce qu'à force, sinon, on est en train de renforcer, que ça soit dans les Outre-mer, mais que ça soit dans l'Hexagone, ce sentiment qu'on n'est pas pris en compte, et dans la maison où nous sommes aujourd'hui, on peut le dire encore plus, on n'est pas pris en compte dans nos spécificités, donc on est dans la défiance et dans l'opposition. Et on ne construit pas des relations nouvelles de confiance qui s'enrichissent des apports mutuels du spécifique et du le global.
Ouais. Et au passage, ça fait un curieux écho avec le premier sujet de conversation de notre émission.
Oui, tout se recoupe, mais Est-ce un fait de société? Est-ce que, où allons-nous à cette allure-là? Où allons-nous?
On est bien dans, dans la discussion dont on parle, dans la désagrégation de la cohésion.
Oui, oui, si on se crispe effectivement sur... Alors sur une supposée identité, pour le coup, uniforme, qui ferait que...
Est-ce qu'on risque de ne pas naître, ça ferait presque le pont avec le troisième sujet que nous n'aurons pas le temps de traiter, que nous remettrons, parce que celui-là, on va en parler un moment. Est-ce qu'on va en arriver à une situation comme aux États-Unis, où il y a une partition énorme de la population, et où on ne se parle plus, parce qu'on est dans des univers complètement différents?
Je vous rappelle que nous parlons de ça au moment où Mark Zuckerberg est en train de lancer Meta. Mais enfin, Meta, il y a des très bons articles qui sortent aujourd'hui. C'est quand même une projection de vivre dans un monde qui n'a plus besoin de tout ça. Oui. Finalement, nous allons vous organiser des mondes virtuels dans lesquels vous allez vous retrouver, et nous, ça nous va très bien.
Oui, chacun dans son monde virtuel avec sa petite communauté.
C'est pas
très, très excitant quand même comme perspective. Ce serait plutôt même un peu inquiétant.
Ça fait pas vibrer, c'est ça.
Non, voilà.
Ça ne fait pas vibrer pour autant qu'on a, on a un rabat du côté du projet collectif. C'est-à-dire qu'on a un rabat du côté du bonheur individuel enfermé dans une bulle, c'est clair. Mais on ne fait pas société avec ça.
Je vous rappelle qu'à cette heure-ci, les gens qui normalement devraient s'intéresser à ça font 18% à eux tous de l'élection présidentielle. Et encore peut-on compter au milieu de ça un qui est le plus haut et qui a beaucoup de voix dans son... Donc, si vous voulez, les gens qui travaillent aujourd'hui sur cette idée de déshumanisation, d'universalisme, de comment un modèle peut s'adapter en ayant en modifiant un certain nombre de règles, on n'est pas arrivé, hein. On n'est pas arrivé parce que visiblement, ces choses sont même pas posées.
On a même du mal à partir.
Oui, voilà. Mais est-ce que peut-être un peu la médiocrité intellectuelle de ces gens et leurs petits appétits ne sont pas contraires au discours un peu humaniste qu'il faudrait qu'ils portent? Ça manque un peu d'envolée, tout ça. Vous parlez de la gauche, là, 18%, j'imagine.
Oui, hein? Moi j'avais cru comprendre ça, effectivement.
Oui, moi aussi, j'avais cru comprendre parler de la gauche, mais bon, la gauche, c'est plus trop ce que c'est. Elle est elle-même aussi morcelée que la population l'est, et puis personne ne veut écouter son prochain. Personne ne veut non plus opérer un sacrifice en se rangeant derrière son petit camarade.
En règle générale, comme ces histoires finissent toujours par l'autorité la plus simple, hein. Le populisme autoritaire plus une bonne virtualité pour le reste, c'est quand même...
Bah, parce on est parti pour Milan.
Oui. Vous savez ce que c'est
le Reich de Milan.
Vous savez ce que ça donne? Ça donne la Chine aujourd'hui, c'est tout. C'est tout.
Ben oui.
Tout le monde, il ne marche pas au pas de loi, mais au pas du canard.
Peut-être qu'on en parlera peut-être une autre fois, mais c'est au jour aussi où c'est intéressant. Moi, j'ai découvert ça en préparant l'émission, parce qu'on
c'est travaillé.
Biden, complètement bloqué dans son pays, complètement bloqué objectivement dans son pays par... y compris avec une naïveté, des fois, moi, ça me laisse un peu pantois, va essayer de refabriquer de la démocratie via Zoom avec des pays qui sont des vraies démocraties par rapport aux fausses démocraties. Autrement dit, on est dans les grands travaux. Hein.
Biden, sachant qu'aujourd'hui, on le donne à 46%, alors que Trump, s'il se représentait, ferait 48%. Tout ça est extrêmement inquiétant. Et puis, on va arriver aux élections de mi-terme, il va prendre une culotte fabuleuse.
Mais parce qu'en face de lui, il a y compris des gens qui, maintenant, arrêtent de jouer le jeu. Il est tout étonné, effectivement, de se retrouver avec... Des républicains qui ne jouent pas le jeu.
Les républicains n'ont jamais joué le jeu. Si vous voulez savoir ce que c'est qu'un président américain et à quoi il se confronte, il n'est que de lire les mémoires, le premier tome, parce qu'il n'y a pas le deuxième encore, les mémoires d'Obama.
Oui, je les ai lus aussi attentivement.
Et quand on lit ça, on se rend compte à l'évidence que le président des États-Unis, il est loin d'avoir tous les pouvoirs, il est en lutte permanente son congrès.
Tout à fait, mais la particularité qu'il peut y avoir par ailleurs, c'est qu'en face de lui, moi de ce que j'aime perçoit, c'est qu'il a en face de lui non seulement des gens qui mentent, mais qui expliquent qu'ils mentent et que c'est pas important du fait qu'ils mentent parce que de toute façon la vérité n'existe pas. C'est-à-dire qu'à partir de là, les bases mêmes de tout discours un tantinet rationnel qu'on peut avoir par rapport à un projet qui est un projet partagé, la question elle est réglée. Je veux dire, ça quand même, on n'en était pas, Et ce qui se passe, alors là aussi, comparaison et tout, mais ce qui se passe aujourd'hui est quand même assez surprenant, parce qu'on a effectivement des gens qui font un pourcentage assez impressionnant et qui mentent de manière éhontée, on refait l'histoire, on raconte n'importe quoi, et quand quelqu'un dit, écoutez, vous êtes en train de raconter n'importe quoi, les gens qui croient cette personne-là disent de toute façon, lui veut du mal. Enfin, on est dans un clivage absolu. Et dans des débats qui se résument à l'invective et à la partie
On s'auto-persuade, parce que j'ai lu quelque part qu'il y a encore 30% des Américains, alors des Républicains, mais qui sont persuadés que Joe Biden a volé sa victoire.
Bien sûr.
C'est hallucinant.
Mais oui. Et que dans le Parti républicain, toute personne qui dit le contraire est quasiment exclue ipso facto, parce qu'effectivement, ils ne portent pas le... Voilà.
Surtout quand on sait qu'en plus, les Républicains, tel qu'est fait le système électoral américain, ils sont avantagés, puisque c'est les petits États où ils sont le plus représentés, États ruraux, qui envoient le plus de représentants au Congrès, et que la loi électorale aujourd'hui est quasiment impossible à changer dans l'état actuel de politique des États-Unis. Donc c'est vrai que Biden va se faire exploser. Kamala Harris, on la sent contestée, elle a quand même beaucoup de mal à trouver sa place, mais elle n'est que vice-présidente. Mais je vois mal une vice-présidente noire succéder à Biden comme certains en ont rêvé il y a quelques mois. Ce chemin de tête est intéressant, mais il n'est pas radiophonique, Jean-François.
Non, c'est vrai. Non, mais je suis... Les gens qui rêvaient d'une présidente noire parce qu'elle était jeune et que Biden était vieux et qu'elle pourrait prendre le relais, c'est le terme naïveté qui me,
oui, c'est
voire
la première
angélisme pensée, qui me vient. C'est pas méprisant en plus, hein, je veux dire. C'est pas ça que je porte. C'est qu'il me semble quand même que. Enfin, La vie politique américaine me semble quand même... J'ai lu le bouquin de Obama. Être un curieux mélange, mais culturellement, moi, que j'ai du mal à concevoir, entre, d'une part, quelque chose de l'ordre de la naïveté la plus... Comment dire, la plus vendable, et d'un cynisme qui est un cynisme absolu. Parce que, je veux dire, quand on lit le bouquin d'Obama... Je pense que c'est un mélange de naïveté et de cynisme aussi, de la part du même personnage. Voilà.
Le bouquin est intéressant, donc il est tout à fait passionnant.
Oui.
Sur l'image qu'il nous donne et qui n'est pas forcément celle que nous véhiculons ici.
Non, mais il a manqué me tomber plusieurs fois des mains, je dois avouer, tant que j'ai été horripilé par cette espèce de dimension, effectivement, qui était... De ce côté, je veux dire, d'une naïveté qui est une naïveté qui va se réfugier dans la prière dès qu'il y a quelque chose qui commence à être un petit peu déstabilisé sur les valeurs, et le fait que soyons pragmatiques. Voilà, ça...
Vision américaine, parce que ça nous permet peut-être de mieux comprendre un peu un fonctionnement intellectuel qui est loin d'être le nôtre. Mais on reviendra sur cette question, on parlera peut-être, on consacrera une heure pleine aux États-Unis et on demandera à ceux que j'ai reçus avant l'élection, c'est-à-dire le président local du Parti démocrate.
À des gens qui connaissent mieux que nous.
je ne sais pas ce qu'ils connaissent mieux, mais enfin, ils sont immergés dedans. Et alors c'est vrai qu'ils ont un discours intéressant parce qu'ils ont pris le recul, ils sont venus dans un autre pays et ils ont une autre façon de voir le leur aujourd'hui.
Ah, le détour, il est toujours intéressant.
Voilà, et là, leur apport et leurs interrogations surtout sont extrêmement intéressantes, nous y viendrons, mais l'heure a sonné de nos dernières rubriques dont nous allons abandonner pour l'instant les États-Unis et Joe Biden à son triste sort, je ne sais pas s'il est triste, mais enfin il est compliqué, et nous allons ouvrir la séquence des brèves, je vais ouvrir, puisque j'ai la parole. Moi, je voulais vous parler du déficit commercial, vous savez que le commissariat au plan publie un rapport qui est toujours très entendu, et où on y apprend qu'en 20 ans, la France est passée d'un modèle de production à un modèle de consommation, bon, ça on l'avait un peu prévu quand même, hein, à l'exception de l'Angleterre, de UK, notre commerce extérieur est devenu déficitaire avec tous nos voisins européens. Et le cas de l'Allemagne, le déséquilibre a même doublé. Alors, c'est vrai qu'on a un commissaire au plan. Vous savez qu'on a un commissaire au plan, hein.
C'est François.
C'est Lou Bayrou. Et qui a dit, dans nombre de secteurs, la France a une économie sous-développée. Je l'ai cité. Et en 20 ans, le commerce...
Ces Béarnais ne sont pas sérieux.
Non, ils ne sont pas sérieux. La Vallée d'Aspe, on en a reçu un ici, candidat à l'élection présidentielle, vous avez pu entendre son discours. Et le commerce extérieur français a généré un déficit cumulé, alors en 20 ans quand même, hein, de 900 milliards de dollars, alors que pour l'Allemagne, l'excédent commercial cumulé rapportait... Je ne sais même plus si je ne me trompe pas dans les chiffres, 400 milliards de dollars sur la même période. Donc,
on n'a pas l'habitude de manipuler ces chiffres.
Voilà, c'est des chiffres qui sont
aller pour faire nous, les commissions.
Enfin, bon, ce qu'il faut comprendre, c'est quand même qu'on est un peu au fond de la classe. On n'est pas dans les meilleurs, loin de là. Bah, tiens, Jean-François, une brève.
Oui, une brève. Alors, elle est très locale. Une brève. En sortant de l'émission, j'irai faire un tour au gymnase Saint-Cernin à Toulouse.
Ouais, je ne vous vois pas tellement en train de faire du sport.
Ben, c'est parce que le gymnase accueille une quarantaine de réfugiés, de gens sans papier. Ça fait écho au premier point qu'on a évoqué, de familles avec 23 enfants qui dorment dehors. Parce que l'État ne remplit pas ses obligations et qui ont décidé, avec l'appui d'un certain nombre d'associations, de s'installer dans un gymnase qui est un gymnase public, en attendant que l'État applique la loi.
On sait qu'il n'est pas le meilleur dans ce type d'exercice. Pierre Larouille, une brève.
En fait, vous me l'avez un peu volé, parce que moi, j'étais, je sais pas, je regardais d'un air très, je sais pas, comme ça, un peu surpris, de voir M. Bayrou effectivement présenter ce projet à 4 mois de la fin du mandat. Moi, je pensais qu'on venait avec justement un grand projet pour la France. Je ne pensais pas qu'on le réservait
au
clap de fin. voilà, mais c'est le monde à l'envers. Peut-être qu'en fait, c'est Valérie Pécresse qui va se servir des projets de Bayrou.
Oui, devant ce paysage politique, on est quand même tous un peu
éberlués,
oui, pour le moins.
Le contexte est amusant parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, imaginez qu'il y a un candidat socialiste qui sorte au cas où, et qu'il y ait quelques points qui...
Il finira par aller à Lourdes, hein, il verra une apparition.
Hein. C'est pas très loin de Pau.
Qu'il y ait quelques points qui soient grappillés par-ci, par-là, on pourrait se retrouver peut-être avec un deuxième président qui n'atteint pas le second tour, voire parfois qui ne participe pas au premier, c'est vrai. Mais on n'est pas sûr, dans une hypothèse comme ça, on n'est jamais sûr que Macron est au second tour. Aujourd'hui, on fait comme c'était acquis.
Ah oui, avec Mme Pécresse, Fab, de droite, dont on pourrait dire qu'elle est moins dure, moins extrême que M. Ciotti et son camarade Zemmour. Bon, elle a peut-être quelque chose. Moi, j'ai entendu quand même des socialistes dire, et puis pas des socialistes, des gens qui participent au mouvement, dire
ils vont voter
Macron. Ben, on ne votera pas Macron, on ira voter pour les Républicains, parce qu'il est hors de question que l'on revoie Macron 5 ans encore.
Et imaginez qu'il vote socialiste. Qui sera encore plus intéressant.
Oui, tout à fait.
Les gens qui se réclament du socialisme.
Oui, ce serait...
Arrêtons de raconter n'importe quoi.
Non, mais en tout cas, on va voir que dans les semaines qui viennent, les sondages vont beaucoup bouger et que dans un mouchoir de poche, parce que c'est un mouchoir de poche, de 4 points, on aura peut-être 3 voire 4 candidats avec un qui peut-être ne sera même pas candidat s'il n'a pas les signatures. Et donc avec des déplacements de voix qui peuvent être extraordinaires. Et peut-être une surprise, c'est qu'il y a un véritable candidat socialiste. Je n'ai rien contre Anne Hidalgo, mais visiblement, elle n'impacte pas.
Elle va rejoindre Jean Lassalle, je pense.
Était le candidat, était le socialiste. Était le candidat socialiste.
En tout cas, aujourd'hui, c'est vrai qu'elle n'imprègne pas et que je pense qu'il vaudrait mieux qu'elle...
Il faudra regarder avec attention aussi un truc qu'on oublie jamais, toujours dans ce genre de discussion, c'est le taux d'abstention.
Ah oui, ce sera certainement...
Il dira l'eau sur l'état de notre démocratie.
Tout voilà. À fait. Passons à la rubrique l'avant-dernière et le ça va mieux. Alors moi j'en ai deux. Tiens, d'habitude c'est toujours compliqué, mais j'en ai trouvé deux. D'abord les Norvégiens ont décidé de ne pas forer. Je vous en donnerai, j'en ai quelques-uns. Les Norvégiens qui ont décidé de ne pas forer de puits de pétrole dans les îles Lofoten, qui comporteraient encore 53 millions de dollars de réserves de pétrole, et tout cela afin de préserver l'écosystème des îles, dont le collapsologue que je suis bénit les Norvégiens. Et puis tiens, je vous amène toujours voyager, le Malawi, vous aurez un peu peut-être justement de mal à le situer. Bien, sachez qu'une femme a été élue présidente du Parlement du pays, elle s'appelle Esther Challenge, ça ne s'invente pas. Elle a annulé 1500 mariages avec des filles mineures et les a renvoyées à l'école. Donc il y a encore quand même quelques dirigeants politiques qui sont dignes de ce nom. Jean-François Mignard.
Oui, alors moi j'en ai un quand même. J'ai réussi à en trouver un parce que j'étais un peu déprimé. Et j'ai utilisé le fait que quand on dit ça va mieux, on ne dit pas ça va mieux pour qui. Donc ça va mieux, ça va mieux, c'est l'Institut des politiques publiques qui nous le dit, qui montre que les 1% les plus riches ont bénéficié de la plus importante hausse de pouvoir d'achat depuis que Macron est président, qu'ils ont obtenu un gain moyen de 2,8% sur l'ensemble revenu après impôts et prestations. À l'inverse, les 5% des ménages les plus pauvres ont perdu 0,5% du pouvoir d'achat moyen. Ça va mieux pour les riches, ça va nettement moins bien pour les pauvres.
Il me semble que nous avons les mêmes lectures. Pierre Larouille.
Puisque vous en avez cité deux, je considérais qu'il y en avait un qui était à moi.
Bon, allez, je vous en donne avec grande générosité. Alors, terminons par un conseil culturel, quelle qu'en soit la nature. Moi, je l'ai déjà cité à plusieurs reprises, mais je ne me lasse pas. Et donc, je voulais vous dire qu'il y a des journalistes qui sont l'honneur de la profession, qui prennent encore le temps de mener...
Elle en a besoin.
Oui, de mener des enquêtes de longue haleine et le faire avec professionnalisme et talent. Alors, c'est pas chez M. Bolloré qu'on le verra, bien sûr. Je veux citer Gérard Davé et Fabrice Loeb, qui sortent chez Fayard un livre intitulé « Le traître et le néant », dont il me semble que l'on ne parle pas assez. Un livre renseigné, factuel, bien construit, qui se lit d'une seule traite. Moi, je l'ai lu quasiment comme un polar. Il est un peu épais, mais je me suis régalé, je l'ai dévoré.
J'attends de le lire.
Alors,
les fêtes.
Voilà, les fêtes. Ben, vous allez voir.
J'attends de savoir les deux choses sur lesquelles ils ont expurgé leur livre.
C'est la fête à quelqu'un. Alors, si vous voulez savoir de quoi Macron est le nom, si vous voulez nourrir votre réflexion en vue des prochaines élections présidentielles, on l'a dit, il le fallait, n'hésitez pas, lisez « Le traître et le néant ».
Alors, toujours dans la série des livres, la dernière émission, j'avais promu un livre de Jacques Tardy et de Dominique Grange sur la guerre de 14-18. En tant que boomer 68-art, j'en remets une couche, toujours les mêmes, Jacques Tardy et Dominique Grange, ça s'appelle « Élise et les nouveaux partisans ». L'histoire des Mao pendant les années 68, c'est aux éditions Delcourt, cette magnifique BD avec la plume, enfin, avec l'encre de Chine de Jacques Tardy. C'est assez sympa, voilà. Moi, je trouve que c'est un bon livre pour les fêtes, pour notre génération, ou du moins certains membres de notre génération. Et puis deux pour le prix d'un. Un film que je veux aller voir à l'excellent Festival du cinéma à Muret. Où on a eu un débat intéressant après qui s'appelle « 9 jours à Raqqa », de Xavier de Lausanne, qui raconte 8 jours passés auprès de la mairesse ou la mère de Raqqa, puisque Raqqa, en Irak, est une ville qui est co-dirigée par une jeune trentenaire kurde et qui reconstruit avec l'ensemble de la population cette ville qui a été rasée et qui, je le rappelle, avait été la capitale autoproclamée de Daesh.
Pierre Larouille ?
Je ne sais pas sur quel ton il faut le dire, mais on parlait avant l'émission avec Mignard des années 30.
Et oui, vous les avez vécues par moi. Donc.
Et de tous les bons souvenirs qu'elles comportent. Et du débat culturel et des affrontements culturels qui s'y posaient. Et du coup, je ne peux pas, surtout après le discours qu'on a entendu de M. Zemmour, mais on se dit, mais où est la culture ? Il n'y a pas un candidat qui s'en occupe.
Absolument.
Le mot n'est même pas prononcé.
Aucun des candidats n'a parlé de culture.
C'est
alors
hallucinant. Et de l'autre côté, il n'y a personne qui arrive à lever le monde culturel, parce que vous en croisez comme moi, des gens du monde de la culture. Je crois quand même qu'il y en a un paquet qui sont tant soit peu irrités, pour dire le moins. Mais il ne se passe rien, c'est atone.
Et encore une fois, peut-être un peu casser ces divisions qu'il y a dans les Français, c'est peut-être par la culture, justement. C'est des sujets sur lesquels on peut tous se retrouver, prendre du plaisir, du désir, se reparler et refaire peut-être
comme,
un peu
comme
société.
Comme si le paradigme de l'identité culturelle tuait la culture universelle.
Absolument. Non, c'est très important parce que c'est en même temps un lieu de résistance et effectivement un lieu de cohésion. C'est le lieu type de cohésion. Donc voilà, je ne sais pas qui sont les gens qui conseillent les programmes des acteurs politiques actuels, mais c'est quand même assez stupéfiant.
Peut-être que les acteurs politiques actuels ne sont pas à leur place là où ils sont face aux défis qui sont devant nous. Une annonce, bon, on en fait une, je crois qu'il y a un ancien président de la République qui sera en signature, on m'a signalé ça avant le début de l'émission, le 13 décembre à Colomiers, je ne sais plus à quelle librairie. Monsieur Hollande vient signer son dernier livre dont le nom m'échappe.
Affronté.
Ah ben vous le connaissez, il y en a au moins un qui le connaît.
Et il n'y a pas 50 librairies à Colomiers par ailleurs, je pense, où on est susceptible de venir signer un livre. Vous le trouverez facilement sur Internet.
Oui. C'est, alors je vais vous le dire parce que je regarde les notes qu'on m'a envoyées. C'est la librairie Préface. Voilà, librairie Préface à Colomiers, le 13 décembre prochain à 17h. Donc, Monsieur Hollande vous dédicacera son dernier livre.
C'est un très bon nom de librairie parce que ça peut être la préface d'un programme qu'on pourrait peut-être reprendre. Parce que dans ce livre, il y a beaucoup de choses.
Qu'êtes-vous en train de nous dire, Pierre ?
Je suis en train de vous dire que je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt, que c'est très très bien écrit. Et on sent la plume et les griffes au début de François Hollande, qui est de ce point de vue un talent qui est à peu près reconnu. Mais derrière, il y a toute une version programmatique qui visiblement n'intéresse personne, en tout cas pas les candidats socialistes. Et c'est dommage parce qu'il y a à l'intérieur beaucoup de choses dont on pourrait nourrir peut-être un programme social-démocrate.
Eh bien écoutez, nous allons voir si cette idée, cette suggestion, voilà, c'est une prédiction peut-être. Et puis dans quelques temps, quand il sera sorti, qu'on l'aura lu, on vous parlera d'un jour, il montera la marche jusqu'à demain, titre des plus énigmatiques.
Non, et un jour, il monta les marches jusqu'à demain.
Pardon, j'écris très mal, il monta les marches.
Mais c'est un roman.
C'est pas un polar quand même.
Non, c'est un roman.
C'est un roman, donc écoutez, nous en reparlerons, on le lira et on le chroniquera ici. Voilà, merci Pierre, merci Jean-François, comme d'habitude, vous fûtes magnifiques.
Vous en êtes un autre.
C'était Ça va mieux, une émission de Jacques Lavergne. Aux manettes, nous avions Tiffaine Lemaine, que je remercie. Bien sûr, vous pourrez retrouver le podcast de cette émission, ainsi que tous les autres podcasts sur le site d'Esprit Occitanie. À bientôt pour une nouvelle édition de Ça va mieux. Merci de votre fidélité, belle journée, belle soirée à toutes et à tous.